Le journal, Manon Becker, bonsoir.
Bonsoir, le dossier de la Tavanne Machine était à l'ordre du jour du Grand Conseil, un retour forcé en raison de l'état du bâtiment qui doit accueillir le futur pôle administratif du Jura bernois. Plus d'informations dans cette édition. Une grande alliance de 40 communes romandes vient de voir le jour. Elles font front commun pour empêcher la fermeture de leurs bureaux postaux. Dans la région, plusieurs localités concernées y participent. Les agriculteurs de la région se mobilisent pour les feux agricoles. La semaine dernière, les autorités forestières ont procédé à des ajustements réglementaires. La Chambre d'agriculture du Jura bernois a lancé une pétition pour demander la modification de ces révisions. Du côté de la météo, ce soir, le ciel sera dégagé en début de soirée. Il se couvrira au fil des heures. Quelques pluies sont attendues dès le milieu de la nuit. Demain, le temps sera gris avec quelques faibles pluies en matinée. Des éclaircies feront leur apparition dans l'après-midi. Mais avant de développer les titres, à Bienne, une partie du réseau d'eau potable a dû être chlorée en raison d'une contamination bactérienne. On vient de l'apprendre. Les quartiers du nord de la ville de Beaumont, Fouxenride, Chantemerre, les Vigneuls ainsi que la commune d'Evillard-Macolin sont concernés. Des contrôles hebdomadaires ont permis de déceler la présence de bactéries fécales dans un réservoir. Il a immédiatement été mis hors service. Énergie Service Bienne est en contact avec le laboratoire cantonal de Berne pour de nouvelles analyses. En attendant les résultats définitifs qui seront connus demain matin, la population est invitée à faire bouillir l'eau avant de la consommer. L'épineux dossier de la Tavanne Machine était de retour au Grand Conseil ce mercredi. Un retour forcé en raison de l'état du bâtiment qui doit accueillir le futur pôle administratif du Jura bernois, Olivier Zano.
Il était d'abord question d'un crédit complémentaire de 2 millions de francs, un montant qui doit permettre au canton de Berne de dédommager les locataires du bâtiment. Des locataires qui ont dû quitter leurs espaces en raison du risque d'effondrement et qui vont surtout devoir se trouver de nouveaux locaux. Un soutien urgent et indispensable à des entreprises régionales bien ancrées selon le conseil exécutif qui veut surtout éviter des faillites qui pourraient entacher sa réputation. Le Grand Conseil a largement abondé dans ce sens. Mais dans les débats ce mercredi, on a senti une pointe d'agacement dans un dossier complexe mené sous la pression du temps puisqu'il faudra vite relocaliser les unités administratives de Moutier avec au final un bâtiment qui présente des défauts cachés. On cherche les responsables, le vendeur, l'acheteur ou est-ce la faute à pas de chance? L'UDC a proposé l'ouverture d'une enquête de surveillance, proposition acceptée à l'unanimité. Anne-Caroline Graber a soutenu cette volonté de son parti tout en la relativisant.
Je crois qu'on fait au mieux étant donné les circonstances. Et puis il faut peut-être un petit peu dépassionner aussi le débat, hein, parce qu'il s'agit de régler des problèmes très concrets, de garantir la sécurité et puis d'aller de l'avant sous la pression du temps, hein, comme c'est le cas depuis le début. Certes, la charge proposée par l'UDC qui demande une enquête de la commission de gestion, elle a été acceptée à l'unanimité, c'est vrai. Donc le Grand Conseil, on voit qu'il veut se pencher d'un petit peu plus près sur cette affaire du bâtiment de Tavanne Machine. Mais d'un autre côté, le crédit a été massivement accepté, le crédit de 2 millions de dédommagement par 117 oui contre 11 non et 18 abstentions. Donc il y a une majorité quand même extrêmement claire en faveur du crédit pour dédommager les locataires, ce qui signifie que le Grand Conseil approuve fondamentalement. Il veut simplement peut-être un peu faire davantage la lumière, mais ce n'est pas comme si on mettait en place une vraie commission d'enquête pour un scandale. Il n'y a absolument pas cette dimension-là.
Ce soutien aux locataires de la Tavanne Machine, plafonné à 2 millions de francs, est lui aussi à relativiser. Au moins une partie pourra être remboursée par l'assurance responsabilité civile. Le canton de Berne examinera aussi avec minutie les demandes de dédommagement des locataires, leurs besoins réels, ceci afin d'éviter un enrichissement illégitime.
Un sujet réalisé par Olivier Zano. Le Grand Conseil a aussi mis un coup de frein à l'extension des zones 30 dans les villes. Il a adopté de peu aujourd'hui une proposition de l'UDC qui vise à introduire un moratoire dans le canton jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la circulation routière. Le moratoire s'appliquera pour les routes affectées à la circulation générale, c'est-à-dire les axes principaux. Les projets de zone 30 seront mis en veille, sauf s'ils sont déjà très avancés. 40 communes romandes qui font front commun pour empêcher la fermeture de leurs bureaux postaux. C'est la Grande Alliance qui vient de voir le jour. Dans la région, plusieurs localités concernées y participent. L'objectif est de faire pression sur le monde politique. Le Conseil des États se prononcera la semaine prochaine sur une motion qui demande de redéfinir le mandat de service universel de la Poste avant toute nouvelle restructuration. Une clarification indispensable selon Jacques-Henri Youffert, maire de Valbir, sous l'office postal est menacé.
C'est clair que les bureaux postaux, s'ils sont moins utilisés parce que les gens, ils envoient moins de lettres ou ils font plus les paiements à la poste ou ils envoient moins de paquets, etc. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas contrôler. Ce que je sais, c'est que la poste n'est pas comme n'importe quelle autre entreprise. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, par exemple, une banque dans un village qui, à un moment donné, pour X raisons, décide de fermer ses bureaux. C'est leur cours de métier. C'est eux qui prennent le risque, finalement, de rendre des clients peut-être pas contents et puis qui se disent ben, qu'ils vont peut-être s'éloigner de la banque. La Poste, ce n'est pas le même cas. La Poste, jusqu'à preuve du contraire, c'est un service universel qui doit être assumé. Moi, quand j'entends le fait de fermer des bureaux qui ne sont pas rentables alors qu'ils ont un service universel, je ne peux pas m'empêcher de tirer un parallèle avec les CFF. Peut-être qu'un jour, les CFF diront ben, « Finalement, la ligne dans la vallée de Tavannes, elle ne rapporte rien, nous on la ferme, même que maintenant, ben, ils vont la moderniser, mais ils la ferment. Et puis, on va laisser à des privés ou respectivement, on va voir si on peut faire avec des transporteurs privés pour les voyages à l'intérieur de la vallée de Tavannes. » C'est un peu ça. Et puis, finalement, ce n'est pas de contester les chiffres. Moi, je ne peux pas les contester, les chiffres. C'est simplement de dire, mais est-ce que c'est vraiment votre mission d'avoir quelque chose de rentable ?
Outre Valbir, ce plateau de Diaz, Lanneville et Sonsbeau-Sombeval, Courtelary et Bienne également ont rejoint cette alliance romande contre la fermeture des bureaux de poste. Prochaine échéance politique, le Conseil des États se prononcera donc le 5 décembre sur une motion qui pourrait faire office de moratoire sur le démantèlement des services postaux. Notez que le Conseil national a déjà approuvé le texte. La région se mobilise pour une tradition agricole ancestrale. En juillet, une tramelotte accusait dans le quotidien Blic la commune de ne rien faire contre les feux agricoles illégaux. En réponse à la polémique, les autorités forestières ont procédé à des ajustements réglementaires la semaine dernière. Ces feux sont désormais plus réglementés. Selon la Chambre d'agriculture du Jura bernois, ce sont les agriculteurs qui en payent le prix. La CAJB a lancé une pétition pour demander la modification de ces révisions. Daniela Aleman Gerber, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture du Jura bernois, nous parle de leurs revendications.
Nous refusons clairement l'interdiction de ces feux de nettoyage. En premier lieu, c'est que l'agriculteur est dépendant des conditions météorologiques. Aussi, la complexité administrative accrue, on parle de la révolte agricole. On le sait que les agriculteurs, ils en ont marre de remplir de la paperasse inutile, si je puis le dire assez. Et là, on en rajoute une couche. Et ces feux de nettoyage, c'est un outil indispensable aussi pour les agriculteurs. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Et ce qui est aussi important, ce qu'il ne faut aussi pas négliger, c'est pour la santé aussi du bétail. Parce qu'on ne peut pas simplement laisser des tas de bois comme la division forestière pourrait faire croire. Justement, pour la santé, ça pourrait être dangereux. Le bétail bovin pourrait avoir des panaries. Aussi, tout ce qui est accident avec les tétines. Et il faut s'imaginer toutes ces branches, tout ce qui traîne. Et aussi, ce qui est important, ces pâturages boisés, en quelque sorte, ont quand même été mis comme ça à l'agriculteur qui devait les gérer. Et s'ils ne sont pas nettoyés correctement, il y a aussi des restrictions dans les paiements directs.
La pétition de la Chambre d'agriculture du Jura bernois concernant la gestion des pâturages boisés du Jura bernois sera déposée auprès des responsables politiques régionaux et cantonaux prochainement. Jürg Wichtermann a été élu hier à la présidence du conseil de fondation du musée d'histoire de Berne. Il succède à Luc Menta qui a dirigé l'établissement pendant 12 ans. Jürg Wichtermann assurera la succession à partir de 2025. De son côté, la vice-présidente Esther Mayer quitte elle aussi le conseil de fondation à la fin de l'année. Simone Hofstetter sera la nouvelle vice-présidente à partir de 2025. Le Conseil fédéral ne veut pas d'une neutralité stricte qui interdise par exemple de prendre des sanctions contre un État qui en agresse un autre. L'UDC, emmené par Christophe Blocher, a déposé au printemps une initiative populaire qui veut inscrire dans la Constitution un concept de neutralité intégrale sans exception. Le gouvernement rejette ce postulat. Ce serait un changement de cap contre-productif, affirme le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis.
L'initiative, elle implique un changement de cap par rapport à la pratique actuelle qui a fait ses preuves. La neutralité serait formulée dans la Constitution comme un but en soi. comme une conception dont on ne pourrait plus s'écarter. Or, depuis la création de l'État fédéral, la Suisse a toujours appliqué la neutralité comme un instrument de politique étrangère et de sécurité dans l'intérêt du pays. Non pas de manière rigide, mais avec souplesse. La neutralité n'a jamais été un but en soi, mais un outil au service de notre sécurité et de notre politique étrangère.
L'initiative de l'UDC et de ProSchweiz veut empêcher la Suisse de prendre des sanctions contre un autre pays ou de s'associer à l'OTAN. C'est le combat du moment de l'ancien conseiller fédéral Christophe Blocher, âgé de 84 ans.
Nous avons fait avec les sanctions. Pour ça, les Russes trouvent la Suisse n'est plus neutre. Ils ont raison. Il faut rester sur la neutralité perpétuelle, armée. On est crédible qui ont fait ça. On n'est pas aimé, c'est clair. Mais il ne faut pas être aimé, mais on est estimé. Pour ça, nous n'avons pas eu la guerre dans les 200 années passées, parce que nous sommes été neutres, armés et intégrales.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Le Parlement dira ce qu'il faut faire de l'initiative sur la neutralité et s'il faut lui opposer un contre-projet. Le Conseil fédéral ne l'a pas jugé nécessaire. Le peuple aura le dernier mot, certainement en 2026. L'entreprise d'armement RUAG pourrait revenir dans le giron de la Confédération. La ministre de la Défense a annoncé aujourd'hui étudier plusieurs formes juridiques pour clarifier la gouvernance de l'entreprise. Viola Amert veut faire passer RUAG en droit public ou réintégrer la société dans le département de la Défense. Cette décision fait suite à des irrégularités lors de l'achat et de la vente des chars Léopard 1. RUAG a été épinglé par le contrôle fédéral des finances pour avoir omis d'informer le conseil d'administration et le Conseil fédéral de certaines transactions. L'entreprise est devenue une SA de droit privé il y a 30 ans, mais le contexte géopolitique a changé et ce statut entraîne aujourd'hui une insécurité juridique. Les précisions de Viola Amert.
D'un côté, c'est le Conseil d'administration, la société elle-même, qui a la responsabilité de gérer. D'autre part, la Confédération, comme propriétaire en 100%, avait aussi des intérêts. Et là, ce n'était pas très clair qui a vraiment à faire les décisions et doit prendre la responsabilité. Si on arrive à avoir une société du droit public, là c'est clair, la Confédération a plus d'influence, mais clairement aussi plus de responsabilité. Mais si on regarde les CFF, la Poste, là on voit que ça fonctionne très bien. Et ça peut aussi être un modèle pour RUAG.
Un projet de modification du statut de RUAG devrait être soumis au Conseil fédéral d'ici fin mai. Du côté de l'actualité internationale, le Parlement européen a adoubé aujourd'hui la nouvelle équipe de la Commission européenne à Strasbourg. Celle-ci va entrer en fonction début décembre sur fond de vives turbulences économiques et géopolitiques. Le deuxième mandat d'Ursula von der Leyen va pouvoir démarrer à une cinquantaine de jours de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition. Prochain point d'actualité à 18h30. Une très belle soirée à vous.